Celui-là, il fait partie du prix des incorruptibles l'année dernière. La catégorie 3e seconde. Alors, je l'aime beaucoup, celui-là. C'est l'histoire d'un garçon, il s'appelle Rémi, et en fait, sa mère, elle n'est pas avec lui. Sa mère, je ne peux pas vous dire pourquoi, c'est dans le livre. Elle ne l'accompagne pas, elle lui a laissé un Walkman. Vous savez, les Walkman, c'est des années 80.
Non, les lecteurs à cassette.
Ouais. Avec les écouteurs jaunes en mousse. Moi, je suis une enfant des années 80. J'aurais tué pour avoir un Walkman.
C'est le truc. C'est des niveaux MP4 qu'on a aujourd'hui.
Ouais, sauf que nous, les Walkman, c'était assez lourd. Et on avait des cassettes qu'on rembobinait.
Avec un crayon.
Oui, tu sais, on faisait tourner le crayon pour rembobiner le plus possible. Plus vite possible, on avait reverse et auto. Alors, la cassette auto-reverse. Le Walkman auto-reverse, c'était le rêve parce qu'en fait, on avait la cassette. Il fallait pas sortir la cassette pour changer de face. C'était auto-reverse. Ça se faisait mécaniquement. Donc ça, c'était le rêve. Bon, bref, il a le Walkman de sa mère. Et sa mère, elle enregistrait des chansons dans les années 80. Tous les ans, une cassette. Et donc, comme il n'est pas... Elle lui manque. Il passe son temps à écouter les cassettes de sa mère. Parce qu'en plus, au début, elle lui parle. Elle fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc il a les leçons de sa voix. Son père est médecin. Et son père va d'hôpital en hôpital. Et il se retrouve. Il en a marre de déménager. Rémi, il a 15 ans. C'est bon, il a donné. Et il se retrouve dans cet hôpital. Il se retrouve nez à nez avec une fille qui n'a plus de visage. En fait, son visage est brûlé. Complètement détruit. Et c'est un centre hospitalier de chirurgie réparatrice. Et il se retrouve avec 7 jeunes qui ont tous une opération du visage, des gamins qui sont abîmés de l'extérieur. Et voilà, c'est une histoire d'amour et d'amitié. Je vous lis le début. Alors, chaque chapitre, ça commence par un titre de chanson. D'ailleurs, vous pouvez les écouter si vous voulez. Donc il y a le 80 et en fait chaque chanson correspond à ce que je raconte dans le chapitre. C'est la playlist des années 80. Donc je vous lis le début. D'ailleurs je vous fais écouter Malavida. Je vous fais écouter le début de la chanson. Après. Vous connaissez pas la Mano Negra? Vous connaissez? Non mais c'est bien, toi tu peux faire rire. La Mano Negra, c'est un groupe phare des années 80 qui représentait un esprit un peu de révolte et de rébellion. Et donc, c'est pour ça que je voulais le premier chapitre, il commence comme ça. La fille qui se trouvait en face de moi n'avait plus de visage. C'était comme s'il avait fondu, comme s'il s'était désagrégé, comme si sa peau s'était caracornie, comme si des trous s'étaient formés un peu partout, comme si ses os avaient poussé de biais et s'étaient éparpillés au hasard sous sa chair mâchée et retournée. C'est un visage qui ressemblait à la lune, avec des cratères, des impacts profonds, des tranchées, des zones plus sombres que d'autres. Un visage brûlé, ravagé, détruit. Si j'avais ce visage, je pense que je serais mort. Elle avait des paupières sans cils, pas de sourcils, sa joue droite pendait plus que sa joue gauche. Son nez raboté était beaucoup trop court, ses lèvres étaient recouvertes de croûte et son cou ressemblait à du vieux cuir tanné, traversé de coutures épaisses. Son front était presque lisse, mais sa couleur rouge lui donnait un aspect aussi répugnant que le reste de son visage. Une casquette d'un bleu électrique couvrait son crâne, et quelques touffes de cheveux blonds dépassaient sur les côtés comme des fils électriques coupés à ras. L'une de ses oreilles, la droite, était rabougrie, ratatinée, toute repliée sur elle-même. À l'autre, une boucle en forme de cœur se balançait au bout d'une chaînette en or, un peu ridicule, un peu inutile, un geste de coquetterie absurde. Monta m'avait prévenu, si tu rencontres les patients d'ici, tu ne fais pas de commentaires, tu réagis le plus poliment possible, tu risques d'être surpris, mais surtout tu es diplomate, tu ne montres rien à ces pauvres gens. Ils ont tellement souffert. Tu vas en croiser pas mal ici, des abîmés, des malheureux. Il y a même un secteur pour les enfants et les ados, je compte sur toi pour rester maître de tes émotions. Il me met toujours la pression et voudrait que je sois parfait. Parce que cette fois, mon père n'avait rien trouvé de mieux que de nous caser dans un centre de repos pour les grands brûlés, les accidentés, les amputés qui viennent de subir une opération de chirurgie réparatrice. La première personne que j'ai croisée, c'est une femme qui n'avait plus de doigts, ni à gauche, ni à droite. Coupée au ras de la première phalange. Cadeau de bienvenue. Elle se trouvait devant un immeuble des logements de fonction assise sur un banc. Elle ne m'a pas regardée, occupée à fixer la pointe de ses pieds. Une manière de me plonger dans le bain directement. Je l'ai ignorée. J'ai placé mon casque sur mes oreilles, monté le son à fond. J'ai porté les cartons jusqu'au troisième étage dans ma nouvelle chambre. Et je n'ai fait aucun commentaire, rien. À quoi cela aurait-il servi? Mon père m'aurait affirmé que j'étais suffisamment grand pour affronter les réalités de la vie. Et dans la vie, on rencontre des gens qui n'ont pas de doigts tous les jours. Face à cette fille au visage détruit, je suis restée immobile et j'ai senti que j'écarquillais les yeux. Je faisais pas exprès, je contrôlais rien. Pourtant, j'étais consciente que je ne devais pas réagir ainsi. J'entendais la voix de ma conscience me hurler dessus. « Bouge, Rémi, ne reste pas planté comme un arbre mort, ferme ta bouche, cache ton dégoût. » Ce n'était pas humain d'avoir un visage pareil. Je devais afficher exactement l'expression que mon père m'avait défendu d'avoir. Celle qui faisait de la peine, celle qui heurtait et blessait. C'était plus fort que moi. Nous étions tous les deux devant le sel du centre. Elle en sortait, j'y entrais. Avec mon père, nous avions débarqué la veille. Le frigo était vide comme tous les placards de la cuisine. La fille me regardait. Ses yeux bleus étaient immenses. Des yeux qui auraient pu être magnifiques. C'est à ce moment que j'ai pensé. Elle avait des yeux qui auraient pu être parfaits. Des yeux d'une couleur unique, d'une forme parfaite. Mais tout le reste, ce massacre, ce ravage, ce n'était pas humain. Alors, son visage s'est déformé, je veux dire encore plus déformé qu'il n'était. Un truc atroce, ses joues se sont soulevées. J'ai vu les tendons apparaître sous tout ce mécanisme de rouage joué sur sa peau qui se tordait, se dépliait, se déployait. J'ai réalisé que c'était une sorte de sourire. Voilà, elle souriait. Et son sourire était une grimace atroce. J'aurais aimé m'enfuir comme un lâche qui court devant un fantôme, une vision d'horreur pour ne plus la contempler. Hé, cache ta joie, machin. C'est super romantique comme rencontre, manque plus que les violons, hein. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais je me suis retrouvée sec sans répartie. Son sourire a fait apparaître d'autres trous, d'autres cicatrices, a atteint ses yeux qui se sont mis à briller. Décidément, ses yeux étaient la seule trace de son humanité, quelque chose de normal qui rappelait la fille qu'il avait dû être. Peut-être une belle fille, en tout cas quelqu'un comme moi. J'ai cru voir une larme apparaître, mais elle m'a bousculée très fort en heurtant mon épaule pour avancer. Je n'ai pas réagi. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre, machin, elle a dit en s'éloignant. Et son rire grinçait tellement que j'ai eu pitié. Ce n'était pas le bon sentiment à éprouver pour Sarah Volkovitch, mais je ne le savais pas encore.